Esquer et Roger Coderre sont heureux de vous recevoir ce soir à l'Élysée Montmartre. L'Élysée Montmartre est un lieu où l'on catch. D'ailleurs, si vous en doutiez encore, si vous ne le saviez pas, regardez plus tôt.
Si loin, si proche, le magazine des voyages.
Sur le ring, le grand Vladimir.
Vladimir Cagnolari, Laure Alari.
Présentement sur Vignal, le grand Vladimir n'a pas de cheveux, mais il a une barbe. Et la planchette japonaise de Vladimir sur Vignal qui n'a pas crevé l'œil. Il pousse chaque fois des hurlements, mais là, il en prend une dans la barbe. Et il tombe de toute sa hauteur. Et il en prend. Et Vignal, ça fait mal. Vladimir, tu vas perdre ta barbe. Oui, il va perdre sa barbe. Oh, mes oreilles.
Oh, mes oreilles, grondait à la télé le commentateur Roger Coudert. C'était dans les années 60, l'époque bénie de la lutte professionnelle à grand spectacle, le catch. Oui, parce que c'est dans le monde du catch qu'on va voyager aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous. Ah, le catch. Ma grand-mère en était fan. À la télé, elle ne ratait jamais les réunions où des costauds en slip se donnaient des baffes, se tordaient les bras, faisaient le coup de la corde à linge et tout, tralala, bref, faisaient leur cinéma. Oui, le catch, c'était l'animation des fêtes populaires, à Paris comme en province. Et la télé, qui se démocratisait, en consacrait les héros. L'ange blanc, le bourreau de Béthune, Tito Kopak, l'homme qui luttait avec les ours, le boucher de Budapest, le petit prince, Monsieur Montréal et j'en passe. Mais cet âge des super-héros du ring français a lui aussi été frappé par la crise des années 80. Et peu à peu, il s'est effacé. Il a disparu des écrans et de l'imaginaire des gens. 30 ans plus tard, il existe en France une poignée d'irréductibles qui n'a pas voulu abandonner le catch en version française. Certains d'entre eux tentent même de le relancer du côté de Nanterre, là-bas, en banlieue de Paris. C'est là que nous emmène Raphaël Kraft. Bienvenue au studio Génie, tenu par Fausto Constantino et son fils Fabio. Et ça tombe bien, aujourd'hui, il y a de l'action.
Bonjour madame, il y a un tirage au sort de ton vélo. Bonjour monsieur, il y a un tirage au sort qui va s'effectuer tout à l'heure. Donc pour 3 euros, vous pouvez tirer au sort et gagner 2 places si ça vous intéresse. Pourquoi pas monsieur? Je note votre numéro, vous allez être le numéro 3.
Fabio, on se trouve où là?
Là, au studio Génie à Nanterre. Le temple du catch en France.
C'est le temple du catch, c'est tout petit.
C'est tout petit, oui. Après, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on fait ça. Et tout doucement, ça commence à avoir une notoriété. Au début, on était 60 personnes. Maintenant, on se retrouve à peu près 180-200 personnes.
À chaque fois qu'il y a une représentation, comment on appelle ça? Un match?
Un gala, un show. Voilà, une représentation, c'est pareil.
Et le nom du gala ce soir, c'est...
C'est Apocalypse.
Rien que ça.
Ouais, rien que ça.
Là, vous allez voir un bon gala de catch avec des catcheurs aguerris qui tournent un peu dans presque toute l'Europe, quand même. Ouais.
C'est sous le patronage ou l'égide d'une fédération ?
L'APC, l'Association des professionnels du catch, dont Fausto est le président. C'est le papa de Fabio.
Fabio, à qui je parlais à l'instant, ouais. D'accord. Voilà. Vous êtes qui, vous ?
Moi, je fais de la vidéo. C'est moi qui leur fais de la vidéo. Donc, je tourne avec deux caméras, je leur fais le montage. Et à ce moment-là, ils peuvent le mettre sur Internet. Et je fais une copie DVD pour chacun des catcheurs.
D'accord. Voilà. Et votre prénom ?
Christian.
Merci.
Ouais, merci Christian. Attention, préparez-vous, les choses sérieuses vont commencer.
Mesdames et messieurs, veuillez accueillir les New Stars.
Avant l'arrivée des catcheurs, pendant que les pom-pom girls font leur entrée sous les lustres de la salle, avec Raphaël Kraft, on va faire un pas de côté pour rencontrer, au calme, Fausto Constantino, le fondateur du studio Génie et aussi de l'APC, l'Association des professionnels du catch. Une écurie qui a ses poulains, qui organise des combats et qui a même fondé son école de catch.
Le catch, c'est ce qui se passe au studio Génie. Je m'occupe de boxe aussi.
Donc boxe et puis catch ici.
Tout ce qui est ring, c'est le ring qui est très important.
Pourquoi c'est très important ?
Ben, moi, j'aime bien. C'est le ring, il y en a qui collectionnent des... comment dire, des pins, des choses comme ça. Moi, c'est des rings, j'en ai à peu près 10 ou 12. Chacun sa passion, hein. Voilà.
Ce studio de Jenny, où on organise des mariages, des matchs de boxe et des matchs de catch, il est situé vraiment à la frontière des tours de la Défense, et on a l'impression d'être ici dans le Nanterre tel qu'il pouvait exister dans les années 60.
Oui, pour le moment, ça n'a pas trop bougé, quoique là, ça y est, c'est parti. Hein, le coup de pioche final est donné, j'ai l'impression. Mais pendant des années, c'était les quartiers de Nanterre des années 50, 60, d'après-guerre. Quoi. Voilà, les bidonvilles qui étaient à côté ont été enlevés, et il restait ce quartier. C'était beaucoup de maraîchers, des gens qui avaient leur jardin, des petits pavillons.
Un garage à côté.
Il reste encore un garage à côté, un peintre, oui. Pour le moment, on est encore là, on ne sait pas pourquoi, mais on est là.
Vous incarnez une survivance.
Oui, voilà.
Comme le catch, un peu.
Ben, comme le catch, il avait plus ou moins disparu. Moi, je l'ai fait renaître, et puis on essaye de continuer, quoi. T'as du sucre, là, si tu veux, sucré.
Racontez-moi cette histoire du catch qui a disparu et qui renaît aujourd'hui, enfin qui tente plutôt.
Le catch, moi j'ai toujours connu, puisque dans les années 60, je devais avoir 10 ans, 12 ans ou quelque chose comme ça, et j'avais vu des réunions de catch en province, hein, puisqu'à cette époque-là, les années 60-70, il y avait du catch dans toute la France. Il y avait des tournées que les organisateurs avaient fait. Il y avait plusieurs managers, je crois qu'ils étaient 3 ou 4, dont Roger Delaporte, que j'ai très bien connu. Et j'ai commencé à lui acheter ses rings. Voilà, c'est comme ça, a commencé comme ça. J'ai travaillé longtemps dans les tournages de films, tout ce qui était cinéma. La retraite approchait. Puis c'est là que je me suis dit, on va relancer le catch. On va essayer de faire quelque chose, et j'ai fait une association. Le bâtiment s'y prête pour faire des petites organisations. La mairie de Nanterre nous a aidés pour avoir un gymnase, pour avoir une école de catch.
Pour l'entraînement ?
Pour l'entraînement, bien sûr. Hein. Il doit y avoir trois entraînements par semaine. Et puis quand il faut s'entraîner plus, j'ai un petit baraquement derrière. C'était là au départ la salle d'entraînement. Hein. Voilà.
Qu'est-ce qui vous plaît, Fausto, dans le catch ?
Ben, c'est le spectacle, c'est un peu comme le cirque, c'est un peu c'est cette chose-là, quoi. C'est ça qui me plaît. Et puis, c'est des champions, les catcheurs, ce qu'ils font, c'est magnifique. C'est des sportifs de très haut niveau. Sauf que dans le catch, c'est pas une discipline olympique, c'est du spectacle. On fait partie des intermittents du spectacle. Les catcheurs ne sont même pas considérés comme des sportifs.
Mais faut pas nous mettre en colère, faut pas nous chercher trop longtemps, car lorsqu'on nous fait des misères, on connaît plus ni père ni mère, dans ces coins-là, on devient méchant. Aïe, aïe, aïe.
Au studio Génie, les combats ont commencé. Il y a là le redoutable Dick Rivière, Rick Salem, Senzavolto, l'homme sans visage, ou encore l'aigle blanc, l'étoile montante du moment. Tous, à leur manière, héritiers d'une longue histoire. Cette épopée du catch, l'écrivain Christian-Louis Éclimon l'a très bien raconté dans un livre, Catch, l'âge d'or. Il n'en fallait pas plus pour que Raphaël Kraft aille le faire parler.
Le catch, c'est un décliné de la lutte. On a longtemps appelé ça de la lutte professionnelle avant de réemprunter le vocable américain catch, attraper, garrotter, puisqu'il y a de ça dans le catch. Il s'agit d'immobiliser l'adversaire par un certain nombre de prises déjà répertoriées. Mais en vérité, donc, c'est l'autre nom de la lutte dite professionnelle.
Mais au-delà de ça, qu'est-ce que c'est ?
Bah, au-delà, je ne sais pas s'il y a un au-delà du catch, il y a surtout une lutte tout à fait codée à partir, disons, du début du XXe siècle, et notamment aux États-Unis, entre deux adversaires dont la force a de quoi étonner. Ce sport lui-même était décliné des luttes de foire où il était de bon ton de défier les fameux hommes les plus forts du monde, toutes sortes de monstruosités en biceps qui se commettaient sur les fêtes foraines. De là, aux États-Unis, où tout se monnaie, est né un circuit de lutte professionnel qui est devenu chez eux donc le catch. Et souvent, ces types à l'origine étaient simplement des lutteurs de foire. Plus tard, et après la Première Guerre mondiale, et en France dans les années 30, c'est un sport qui a recruté des lutteurs dignes de ce nom, mais qui ne gagnaient pas leur vie. Et donc qui ont eu vent qu'il y avait aux États-Unis un circuit somme toute très lucratif, et sans doute même un peu mafieux, et qui existait. De là, certains pionniers, dont un certain Henri de Glane, qui était lui-même un très très grand lutteur professionnel, qui a été un petit peu s'initier là-bas sur place, et on peut dire que c'est un des pères en France du catch dès les années 25-30.
Au Palais des Sports, Henri de Glane, aux prises avec Binaki, commente lui-même les différentes phases de ses démonstrations.
Enfourchement, c'est-à-dire placer le bras dans la fourche de mon adversaire, l'enlever et le brancher au sol en bloquant la tête et le bras.
Alors, de Glane part au Canada d'abord, puis aux États-Unis, il revient en France, je dis ça schématiquement, hein, et lance le catch en France.
C'est-à-dire que de Glane, oui, c'est un peu le père du catch en France, allié notamment au fameux Jean Rigoulot, qui était un énorme sportif, lutteur haltérophile, qui, avec de Glane, entre autres, ont édifié le circuit professionnel en France. À partir des années 25, il y a une décennie extrêmement riche en catch en France, dans toute la France d'ailleurs, qui se développe et qui est interrompue par la Seconde Guerre mondiale pour des tas de raisons qu'on peut imaginer. Donc, comme dans la plupart des sports, là, il y a une accalmie. Mais tout ça reprend dès 1945 pour devenir extrêmement populaire là dans les années 50 et jusqu'à la fin des années 70.
Alors voilà ce que j'avais construit. Ouais, ça devait être 98, hein, 97-18, au début de l'opération Catch. D'ailleurs, le ferrailleur du coin m'a aidé, parce que c'est lui qui m'a offert toute la structure en tôle. Mmh. Ça fait une salle d'entraînement. Ce que tu vois là, c'est le ring de 6 mètres.
D'accord.
C'est vraiment une salle à l'ancienne. Hein. Mmh. Je sais pas si tu as vu les affiches, elles datent pas d'aujourd'hui. Hein. Voilà.
C'est tes affiches ?
Ça, c'est des vieilles affiches de la grande époque du catch. Ça, c'est Ben Chimoul, Bord, les Lilliputiens, c'est les années 70, par là. Hein. Voilà, c'est les premiers catcheurs que j'avais. Vassili Kadievka, l'idole des réunions clandestines des docks du port de la mer Noire. Le tigre d'Odessa. J.R., l'homme le plus fort du monde, 135 kilos. Voilà. Mais lui, c'était une force de la nature. Hein. Ce qu'il faisait beaucoup, c'était avec des sangles, il soulevait des voitures.
Ça, vous aimez ça ?
Oui, bien sûr, c'est tous les hommes forts, ceux qui cassent les chaînes. Mais bien sûr, c'est du spectacle, hein. Ça fait rêver.
Mais on est quand même dans une société aujourd'hui où c'est... Ben, c'est pas ça qu'on valorise.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Vous n'avez pas l'impression d'être d'un autre temps ?
Oui, ben, je suis d'une autre époque, moi, oui. Ouais.
Mais les catcheurs, les jeunes catcheurs, là, qu'est-ce qu'ils cherchent, eux ?
Ben, ils aiment ça, d'abord, hein. Ils aiment faire ce sport. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent à montrer quelque chose qu'ils ont appris. Et le catch, c'est un sport qui est infini. Parce que tu peux préparer ton scénario, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est... Il n'y a pas de limite. Hein, on sait que le rugby, c'est comme ça, la boxe, c'est comme ça, il y a des règles. Mais le catch, tu arrives à faire des prouesses athlétiques ou des conversations avec le public.
Vous voulez dire que c'est une invention permanente, comme
oui,
le théâtre?
Oui, sans arrêt, oui, bien sûr, comme le théâtre. Quoi que le théâtre, il faut apprendre son texte. Que le catch, ce que tu as envie de sortir de toi, ça vient. Voilà.
Le plus grand fait trois tours autour du petit qui, lui,
le regarde avec un air attendri.
Et blanc, les poils à tout un coup, ainsi joue contre joue, le regard un peu flou.
Aujourd'hui, les stars de l'âge d'or ont presque toutes disparu. Usés tout aussi sûrement par l'oubli que par les collections de fractures, d'entorses et autres contusions qui furent à l'époque leur pain quotidien. Les catcheurs de l'ancien temps avaient certes des dispositions physiques, mais beaucoup se formaient sur le tas. Un tas de muscles et de sueurs, ça va de soi. Certains avaient pour tout bagage un peu de lutte gréco-romaine. Ce fut le cas, par exemple, de Claude Villers, un homme dont des générations de Françaises connaissent la voix, l'une des plus célèbres des ondes françaises, aujourd'hui à la retraite. Mais avant de devenir journaliste et homme de radio, c'est sur les rings qu'il a commencé. Il avait 15 ans, voici comment.
Il y avait à l'époque ce qu'on appelait des baraques de catch sur les fêtes foraines. Et quelqu'un qui m'a dit « Oh bah tu devrais aller à tel endroit ». C'était la fête à Pigalle, je me souviens. Et ils cherchent des barons. Je savais pas ce que c'était qu'un baron. Et je suis devenu baron dans une baraque foraine. C'est-à-dire que mon rôle consistait à... Vous savez, il y avait la parade sur le petit estrade devant la baraque de catch, roulement de tambour. Et puis, c'était avec qui voulez-vous lutter. Alors, on présentait les catcheurs qui étaient torse nu, en slip et tout, sur la scène, avec les étrangleurs de Rambourg, je sais pas quoi, des noms différents. Et il s'agissait de lever la main très rapidement. Et le présentateur jetait une chaussette pleine de sable à celui qui avait levé la main. Parce que, en fait, c'était dangereux pour un véritable amateur. On se déguisait à chaque fois, une fois en curé avec la soutane, une fois en militaire, en uniforme. C'est l'époque de la guerre d'Algérie, hein, également. Alors, on était payé évidemment de la main à la main. Je serais incapable de dire combien. Et puis, on allait lutter. Alors, soit on gagnait, soit on perdait. Mais avec les compliments, bien sûr, de la maison, avec un petit cadeau. Allez, repartez pas les mains vides, c'est la baie et tout. Et puis, un jour, j'ai un de mes copains qui m'a dit « Oh, ben, il cherche un type pour faire le lever de torchon, c'est-à-dire le premier combat, dans la tournée de Chéri Bibi, qui était une grande vedette du catch à l'époque. Chéri Bibi, on voyait à la télé, qui avait évidemment le crâne rasé. On l'appelait Chéri Bibi le bagnard du ring, et qui venait avec un blouson rayé et tout, et qui était soi-disant un très méchant. »
Qui était une star.
Ah, c'est une star, vraiment, c'est une grande star. Et voilà, je me suis retrouvé embringué pour 2 mois ou 3 mois, je suis venu à faire une tournée à travers la France, c'est la première fois que je me baladais autant à travers la France, en autocar à l'époque, et c'était formidable, j'ai appris plein de choses. J'ai écouté de la musique classique, parce qu'il y avait un des lutteurs qui avait un manche-disque, comme on dit. Mais surtout, j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et puis, voilà, on s'installait le soir, on répétait dans l'après-midi, et puis le soir, on combattait, puis on se tirait vite fait, parce qu'il ne fallait pas rester, parce qu'il y avait toujours les petits coqs de village à la fin du... Parce qu'évidemment, il y avait chiquet, cinéma, t'es pas capable de te battre et tout. On pouvait pas aller boire un verre dans le bistrot du coin où on avait catché.
Et oui, pas facile la vie de catcheur en tournée. Enfin, ça, c'était autrefois, quand la cloche des combats de catch résonnait jusqu'au fin fond de la France et donnait naissance, pourquoi pas, à des stars de cinéma comme Lino Ventura. On en reparle juste après les infos, parce que là, c'est l'heure du flash sur RFI.
On démarre. Voilà, merci. Voilà.
Si loin, si proche, le magazine des voyages.
Entendez le rythme. Comme une musique, voilà Cyril Tintin. C'est bien, stop. Regardez bien comment ils sont synchro. Normalement, même si vous quittez le ring des yeux, au bruit vous entendez qu'ils sont tous synchro.
Ça a l'air d'être une valeur cardinale, la synchronisation. Ouais.
Oui, bien sûr, c'est hyper important. Tout un match de catch va se baser sur le rythme. C'est peut-être le seul vrai travail d'équipe qu'on aura dans le catch. On est vraiment, on a besoin, voilà, on forme une équipe là-dedans. C'est que même si on combat les uns les autres, on a besoin de tous être sur le même rythme pour pouvoir rendre quelque chose d'esthétiquement regardable. Super, les gars. Voilà. Super, les gars, j'ai pas pu vous suivre parce que je suis en train de parler, mais...
Elmer, l'entraîneur que vous venez d'entendre, a raison. L'esthétique dans le catch, ça compte. Si vous nous rejoignez, c'est la seconde partie de Si loin, si proche. Et avec Raphaël Kraft, nous sommes toujours à Nanterre, en banlieue de Paris, cette fois-ci au gymnase municipal. C'est là que s'entraînent les aspirants de l'école de catch montée par les Costantino, Fausto et Fabio, le père et le fils. Parmi les élèves, il n'y a pas que des gars. Les filles, elles aussi, sont là.
Je m'appelle Alexandra. Et j'ai 17 ans et je suis à la PC depuis un an. Voilà.
Comment vous avez découvert le catch ?
Grâce à mon cousin, en regardant la télé. Oui. Voilà, c'est lui qui m'a fait découvrir ça et qui m'a fait aimer ça en fait. J'ai aimé dire que quand j'ai regardé, et après on a commencé à faire ça, des prises sur le lit, comme on faisait tous enfants. On jouait tous au catch enfant, je crois. Mais après, moi, c'est devenu une passion. J'ai commencé à regarder tout le temps, à aller à des spectacles. Et puis, à un moment, je me suis dit, je faisais un autre sport avant, de la gym et de la danse. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire du catch. Donc, j'ai arrêté. Et je suis venue ici il y a un an.
Qu'est-ce qui vous attirait dans le catch ?
Bah, la façon dont ils se battaient, dont la façon dont, en fait, ils créaient les matchs, les prises. C'était spectaculaire pour moi, en fait, quand j'étais enfant. Donc,
Il y a un côté très macho, très...
Oui, mais c'est marrant à voir, en fait, c'est du divertissement, et voilà.
Et vous, en tant que jeune femme, vous vous sentez bien dans cet environnement ?
Oui, moi, ils font pas de différence, donc ils me frappent comme si j'étais un homme, il n'y a pas de différence. C'est la même chose, pas de macho, pas de... Mais voilà.
Donc vous avez appris à chuter, vous avez appris à donner des coups, vous avez appris à en recevoir, quoi encore ?
À faire des matchs, parce qu'on fait souvent des matchs d'entraînement. Mmh. À faire des hits.
C'est quoi des hits ?
Des hits, c'est quand le méchant, ouais, domine le gentil. D'accord. C'est comment construire un match, en fait.
Comment raconter une histoire sur le ring, c'est ça ?
Ah, c'est ça. Ouais. Parce que s'il n'y a pas d'histoire sur le ring, ils vont pas savoir ce qui se passe. Et ils vont s'ennuyer à un moment.
Et vous êtes plutôt gentille ou méchante ?
Moi, plus gentille, moi. J'arrive pas à faire la méchante. J'ai toujours un sourire sur le visage. Mais j'apprends. Je suis en train d'apprendre à faire la méchante et voilà. Il faut savoir faire les deux rôles.
On nous trait un peu les choses. C'est-à-dire que moi, à l'époque où j'ai fait ce que j'ai fait, c'était la grande époque des hommes masqués. J'étais moi-même un homme masqué, un méchant.
Claude Villers, homme de radio à la retraite et ancien catcheur.
Mais ça, c'était au début, on disait, toi, tu feras le méchant, parce que je pense pas être particulièrement méchant. Je me suis jamais battu dans la vie, ça m'est jamais arrivé. Et donc, on distribuait les rôles, comme au cinéma, voilà. Et je me souviens que moi, je me suis retrouvé masqué, parce qu'un jour, l'un des entraîneurs, matchmaker, comme vous voulez, m'a dit, oh bah tiens, tu vas te mettre un bas de soie sur la figure. Parce qu'actuellement, il y a un criminel dans l'est de la France, violeur et tueur. Il était affublé d'un bas de soie sur la figure pour attaquer les dames qui l'agressaient. Et le matchmaker m'a dit, tu t'appelleras l'homme masqué de soie. Parce que c'était la grande époque des... Il y avait l'homme masqué, le bourreau de Béthune, l'ange blanc. Mais l'ange blanc était un bon, gentil. moi, soi-disant. Et avec moi, j'étais vraiment un méchant qui tapait sur l'arbitre, qui faisait des coups bas, qui suppliait à genoux et en profitait quand l'autre se relâchait un peu pour lui faire très mal. Surtout que, en général, évidemment, celui, j'allais dire mon rival, mais qui était mon partenaire, voilà. Lui, il était la moitié de mon poids, soi-disant champion du monde venu d'Écosse, alors qu'en fait, il était d'Aubervilliers ou je sais pas où. Et puis après, on est devenus les frères masqués. On arrivait, je me souviens, c'était le début du rock, 59-60. On nous annonçait qu'il y avait la musique de Graines de violence et on arrivait avec une chaîne de vélo à la main. Alors évidemment, c'était la grande époque des blouses en noir. Les gens hurlaient « salaud, dégueulasse, voyou ». Il y en a qui voulaient nous frapper. Avec un cerf, on avait les soigneurs autour de nous. Et puis on se retrouvait après pour tricher évidemment sur le ring. Sans arrêt, chassé par l'arbitre, on terminait en bonne santé.
Comment vous expliquez cet engouement pour le catch à cette époque ?
Bah, le bien et le mal, c'est combattre l'injustice. Les gens étaient révoltés par les horreurs que nous pouvions faire, nous les méchants. Et c'est un vieux truc, les jeux du cirque existent depuis très très longtemps, évidemment. Heureusement, ça n'a pas la répercussion des gladiateurs, mais il n'empêche que je me souviens que la première fois, en tant que méchant, évidemment, dans les catchs à deux, moi je perdais. Et je me souviens que la première fois que j'ai entendu les gens dans la salle qui criaient « Tue-le !» Et je me souviens d'avoir dit « Mon copain, je te déconne pas !» Ça foutait vraiment les jetons. Tue-le ! Ah non ! Heureusement, il n'a pas écouté les conseils de la salle. Le public n'a pas toujours raison.
Et voici, entre dans les deux coins opposés du ring de la salle Wagram, Gilbert le Duc, que vous reconnaîtrez au fait qu'il est habillé normalement. Le bourreau de Béthune, reconnaissable au fait qu'il porte un masque. Le bourreau masqué, qui nous présente une musculature impeccable. Vous remarquerez que le crâne de l'arbitre se rapproche plus du crâne du bourreau de Béthune que de la tête chevelue de Gilbert le Duc, lequel Gilbert le Duc écoute de profil et maintenant de face et attentivement ce que vient de lui dire l'arbitre dans la langue internationale des catcheurs, c'est-à-dire une sorte de salmisgondi de français, d'anglais, de borborygme et d'éructation, tandis que Gilbert le Duc, après avoir rajusté son slip, attaque le bourreau.
Ah ça, c'était la voix et le vocabulaire fleuri de Léon Zitrone, mis au service du catch. Côté micro, il fut un de ceux qui accompagnèrent cet âge d'or entre les années 50 et 70. C'était l'étrange glorieuse, l'époque de la reconstruction et aussi celle de la guerre froide avec son manichéisme. Christian-Louis Éclimont a ausculté en détail cette époque.
Il y a une naïveté en fait derrière tout ça. Il y a, je sais pas si sociologiquement on peut trouver forcément des racines, ce qui est clair, c'est qu'il y a un peu, alors c'est peut-être dans l'inconscient collectif, le mythe du super-héros, du bon contre le méchant, du faible qui finalement, à l'inverse de ce qui est prévu, va terrasser le fort. Tout ça, c'est un peu la mécanique scénaristique qu'on peut retrouver notamment dans les westerns et autres films de ce genre particulier.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
N'oublions pas qu'on est dans une époque de cinéma tel que les films dialogués, en tout cas par Audiard, on dit toujours les films d'Audiard, mais ces films dits d'hommes, où la force parlait, où il primait, il y avait encore une espèce de survivance de la force, de l'homme fort. Alors, tout ça a été associé et sans doute formé une sorte de cocktail divertissant, car le catch, bien sûr, est un sport. Ce sont vraiment d'authentiques athlètes et qui bossaient énormément. Mais c'était aussi un divertissement en ce sens que les matchs étaient arrangés. Bien sûr, on n'imagine pas que si ces coups avaient été portés, qu'il y eut un survivant. Les coups auraient été mortels. Donc, on travaillait un peu comme dans le spectacle, comme au cirque ou dans le music-hall. C'était des numéros sportifs de haut vol, mais arrangés. Et les combats se déroulaient entre gens de la même écurie, tant et si bien que cette notion d'écurie a fait qu'il y a eu, notamment à Paris, mais sur l'ensemble de la France, plusieurs dites fédérations, parce qu'il y avait deux ou trois managers qui se partageaient le gâteau et qui avaient leur propre champion et qui avaient leur propre code, sinon leur propre rite, et qui n'avaient pas du tout envie de perdre leur part de marché dans leur coin. Puis je crois que ça a fini par lasser. Et je crois que le catch prend un coup derrière les oreilles, comme quoi un sport de ce niveau peut être aussi battu. Par mai 68, et parce que les valeurs se sont inversées dans la société, je crois que le féminisme montant, la société se mettant peut-être davantage à réfléchir, le catch a perdu de son luxe immédiat. Et finalement, pour tomber sinon aux oubliettes, pour passer sur un circuit moins médiatisé qui a un petit peu scellé sa fin en France, on va dire aller aux alentours des années 90, pour renaître aujourd'hui sous une autre forme, mais qui pour ma part m'intéresse beaucoup moins. Parce que c'est aujourd'hui devenu un sport, j'ai toujours scrupule à dire sport, sport divertissement très... très arrangé, on est là face à des shows typiquement américains avec jet de fumée, masque, pom-pom girl, etc. Ce qui était amusant dans ce catch originel, c'est que il y avait quelque chose d'artisanal, il y avait une dimension improvisée, de vérité comme ça, qui était palpable, tangible, quand bien même il y avait des arrangements, et c'était pas forcément facile à déceler.
Allez les filles, regardez bien, regardez-vous bien, voilà.
On a fait toute une affaire, des lutteurs, des catcheurs, des boxeurs, des tombeurs. Pour moi, ça c'est de la petite bière. Tous ces mecs à biceps ne m'ont jamais fait peur. Leur soi-disant combat, c'est du chiquet. Ils passent leur temps à se caresser. S'il y en a un dans la salle aujourd'hui qui vienne ici, il sera servi. C'est moi la môme cache-cache. Voyez mes gros biscottos costauds, avec sa gel herbace et une paire de pectoraux taureaux. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds nickelés. Je fais les pieds au mur comme un échalot, le grand écart et je crache à 15 fois. Je bois du gros vidage, c'est moi la môme cache-cache.
Allez, on reprend un café.
Retour à Nanterre, au studio Génie, sous les tentures et les lustres de la salle qui sert au mariage, aux fêtes et aux combats de catch.
Votre champion en ce moment, c'est Aigle Blanc.
Aigle Blanc, voilà. Tu vois la hauteur du plafond, là. Il a accroché le lustre, là, il l'a foutu en l'air. Il y a 6 mètres de haut. Hein. Il a monté sur la troisième corde, il est reparti en hauteur et... en tournant, je ne sais pas, les pieds en l'air, quoi, bien sûr. Comme on appelle ça, un salto, aujourd'hui. Hein. Et il a tapé là-bas, et le lustre a été... il a fallu tout refaire. Aigle Blanc, c'est un jeune qui a commencé ici. Hein. Et je l'ai connu, je crois qu'il devait avoir 14 ans, 14-15 ans. Maintenant, il est un peu plus vieux, mais c'est vraiment sensationnel. Les Américains, ils sont pas plus forts, c'est même plus joli ce qu'il fait. Voilà. Mais malheureusement, on n'a pas de débouché pour pouvoir le promouvoir et tout, quoi. C'est vraiment un champion. Hein. Il aime ça, il s'entraîne, il est sérieux.
Et il est masqué.
Il est masqué, Aigle Blanc, oui.
On dirait que c'est l'enfant de l'Ange Blanc.
Ah oui, il mérite d'être l'enfant de l'ange blanc. Il a une capacité pareille. Alors, à l'époque, il y avait plus de comédie sur le... que maintenant, c'est le sport à fond, les prises et tout. Et à l'époque, ils jouaient plus avec le public. C'est ce que je leur dis de faire. Il faut travailler avec le public, il faut l'emmener tout doucement, et il gueule et tout. Et voilà. Et des fois, en faisant pas grand-chose. Hein. C'est la force des catcheurs anciens. C'est ça, ils avaient vraiment... une façon de prendre le public qui était magnifique et ça hurlait dans les salles. Pourtant, ils ne faisaient pas grand-chose par rapport à maintenant. C'est plus dangereux et plus impressionnant.
Et est-ce que c'est marrant parce qu'Aigle Blanc, quand il enlève son masque...
Tu l'as vu sans son masque? Ouais. Bon, t'as vu, c'est un jeune. Hein, il est...
On dirait un petit, un petit canari.
Ouais. Il est magnifique, puis il est gentil. Si je pouvais d'aller à Mexico, puisqu'à Mexico, c'est là-bas, puisqu'ils font de la lucha libre, tout en faisant le catch français, hein. Il mérite d'être... Mais malheureusement, j'ai pas de débouché, hein. Personne m'appelle pour ça, quoi. Mais ça serait bien qu'on puisse le voir, hein. C'est un artiste, hein. C'est un grand artiste.
Vestiaire du gymnase où s'entraîne la PC à Nanterre, l'association des professionnels de catch, avec Aigle Blanc. Tu l'as ton masque là?
Oui.
Je pourrais faire une photo? Fais voir. Tu peux me le décrire?
Alors, de base le masque est noir et en fait on a deux sortes justement de petites cornes qui fait référence justement à mon personnage. On m'a donné ce nom après un stage, et bah, maintenant j'ai gardé ce nom avec le masque.
Et ton prénom, on a le droit de le connaître ou pas?
Ah bah justement, c'est un peu le mystère, c'est grâce à ça que j'ai un masque et tout, c'est aussi pour avoir une nouvelle identité.
Et ça te fait quoi?
Bah c'est comme un peu une double vie, on a notre vie normale où on fait ce qu'on a à faire, et on a notre vie de catcheur qui prend notre place et où on est une autre personne en fait, et on fait ce qu'on aime faire. C'est aussi ça la magie du catch, c'est que bah, on est quelqu'un sur scène et dans la vraie vie c'est pas du tout la même personne et on voit que en fait on peut se servir du catch pour un peu montrer toutes nos émotions et tout ce qu'on a, ce qu'on peut pas spécialement montrer dans la vraie vie.
Alors dans la vraie vie tu es comment? C'est quoi ton caractère? Vas-y assieds-toi.
Bah dans la vraie vie je suis, pour l'instant j'ai une vie d'étudiant donc je suis un personnage assez normal alors que dans le catch ça me permet de plus me libérer, plus montrer mes émotions et montrer ce qui me passe par la tête.
Mais tu gagnes tout le temps pour l'instant.
Bah, les deux derniers matchs, j'ai gagné parce que bah, c'est comme ça, j'ai su avoir la force pour gagner, mais ça dépend un peu de la préparation qu'on a et des adversaires qu'on a en face de nous.
Et puis ça dépend aussi de la narration que veut donner le promoteur à ton personnage.
Alors ça c'est encore une autre histoire. Sur ça, on peut pas trop rentrer dans les détails, mais c'est un peu... comment expliquer?
Pourquoi on peut pas rentrer dans les détails?
Parce que c'est ça un peu qui fait la magie du catch. C'est ça un peu qui fait que les gens aiment ça. C'est que bah, y a une magie, il y a quelque chose que les gens ne savent pas. C'est un peu comme un tour de magie. Il y a quelque chose, mais ils savent pas ce que c'est. Et c'est ça qui fait que les gens aiment le catch aussi.
C'est du 50-50 ici, au studio Jenny, Pauline. Il est rentré en plein milieu de sur ring, c'est retourné le tour de M. Arbitre. 1, 2 et 3, c'est terminé.
Bah moi c'est Georgia, on m'appelle Gigi.
Qu'est-ce que vous faites ici?
Bah moi je suis une habituée en fait et je m'entraîne aussi à la PC du coup je vais à tous les shows.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le catch?
Bah c'est difficile à dire parce qu'en fait je suis fan depuis toute petite, mes parents ils m'emmenaient dans des galas de catch donc du coup c'est venu naturellement en fait, ouais. C'est un tout.
Mais c'est quoi?
Tout, c'est le divertissement, c'est les personnages, c'est la technique, c'est l'énergie qu'il y a dans le ring, c'est un tout.
Moi j'étais persuadé que Pauline allait gagner tout à l'heure.
Pourquoi?
Je sais pas, il me semblait que c'était le personnage qui devait gagner.
Non, pas forcément, il n'y a pas... C'est pas prédéfini.
Alors qu'est-ce qui fait qu'elle a perdu, Pauline?
C'est le match, c'est juste que Morgane, elle a su trouver le truc pour l'affaiblir et gagner.
Parce qu'il y a un affaiblissement, parce que bon, les coups sont pas portés, il y a...
Les coups sont pas portés. Alors là, je déteste qu'on me... Alors là, moi, je déteste qu'on me dise ça.
Je déteste qui s'entraînent et qui font du catch. Ouais, sérieusement, du catch, c'est énervant. Les coups sont portés, on apprend seulement à ne pas blesser. Mais les coups sont portés.
Oui,
parce que tous les coups qu'on a à chaque fin d'entraînement... Croyez-moi, les coups sont portés.
Et pas chute. Même si la chute, on apprend à ne pas se blesser, les chutes, on les sent quand même, les coups, on les sent quand même.
Non, mais j'ai vu effectivement, les corps, les traces sur le corps.
Ouais. Après, je pense que l'adrénaline, moi, de mon vécu, l'adrénaline fait que on sent pas forcément sur le coup, mais c'est l'après, en fait. Et c'est à la fin, tu te dis, putain, j'ai mal au dos, j'ai mal là. Enfin,
ouais. Donc, en fait, vous êtes toutes catcheuses, là.
Nous quatre. Après, soit on accroche, soit on n'accroche pas. C'est une passion. Pour moi, c'est comme une drogue. C'est le catch, c'est un style de vie, c'est une passion, c'est tout.
Vous avez quel âge, toutes, là?
Moi, 17. Presque 20.
20. 20 aussi.
Catcheuse aussi?
Oui.
Vous êtes catcheuse, vous aussi?
Non, je suis femme de catcheuse.
Ah, d'accord.
C'est pas facile. C'est pas facile.
Allez au courant, c'est ce que ça fait.
Alors, voilà l'arbitre. Pourquoi vous le sifflez à chaque fois, l'arbitre?
Parce qu'il est vieux, il est nul.
Il sert à rien. Il sert à rien.
Toi, ça va, la petite, là-bas.
Non, mais il sert à rien. C'est bon, il était trop lent pour compter.
Votre prénom, c'est
Pascal.
Arbitre depuis toujours?
Depuis un certain temps, on va dire.
Ouais, bah ouais.
Pourquoi vous faites ça?
Parce que j'ai catché un petit peu. Puis j'ai arrêté de catcher à 52 ans. Suite à un combat contre mon fils. Il m'a cassé deux côtes.
Ça consiste en quoi, être arbitre de catch? Ça sert à quoi, un arbitre?
À faire le pantin sur le ring.
Est-ce que vous jouez un rôle aussi, on dirait?
Un petit peu, quand même.
Qu'est-ce que vous jouez comme rôle?
Bah, ça dépend des fois. Ça m'arrive quelquefois de rendre les coups.
Fais pas peur pourtant.
Fais gaffe quand je tape.
Il m'a déjà tapé.
Mais non, c'était une caresse.
Bébé, c'est pas grave, je fais du catch, je sais me défendre. Bébé.
En France, il existe aujourd'hui une bonne dizaine de fédérations, c'est-à-dire d'écuries tenues par des promoteurs qui organisent des galas avec leurs propres poulains et aussi des catcheurs invités. Mais ces fédérations-là, elles ne tournent que grâce à l'énergie et aux petites économies de passionnés comme Fausto. Oui, en matière de catch en France, pas de pros, pas d'économie, manque de visibilité, tout ça c'est ce que déplore Nadir Mohamedi. Lui, il s'est essayé au catch avant de passer côté micro, au bord du ring. Il commente les galas et il officie aussi sur la chaîne de télé Action où il commente l'émission Catch Lucha Underground, un show qui mêle catch américain et mexicain, très spectaculaire, très commercial, très américain.
Aux États-Unis, ça se passe comment? Aux États-Unis, on prend un mec, on se dit bah le mec est bankable. Là-bas, ce sont des produits. On les prend, on va créer une image, on va créer une marque autour de ce personnage. Donc si les bankable, c'est à travers la vente de produits dérivés, si les gens vont payer sa place par rapport à lui, le nombre de vues qu'il va faire sur YouTube quand il y aura une interview de lui, l'influence qu'il va avoir sur les réseaux sociaux. Si on sent que cette personne est bankable et que c'est une personne qui travaille dur, on va se dire bah, c'est une personne qu'on va faire monter. Donc elle va gagner des matchs et au fur et à mesure, elle va être champion. Puis on voit qu'en tant que champion, il rapporte encore plus d'argent, donc on va le laisser champion, vous comprenez? Ça se passe comme ça aux États-Unis. Là, il y a dessus, j'ai aucun doute. Maintenant, en France, une personne qui catch en France, c'est pas son travail. Elle va travailler à côté, elle va travailler à droite, à gauche. Le catch, c'est un petit peu la deuxième identité du week-end. Vous voyez, le week-end, il va s'appeler X et ce sera la star devant 500 personnes le week-end et il va se faire savonner par son patron le lundi, vous comprenez? Et si on leur promet un contrat télé avec de l'argent derrière, ils vont s'entraîner deux fois plus. Faut être honnête aussi. C'est ça le problème, c'est comme je disais, on a le pied sur deux barques. Donc une fois qu'on a mis ces deux pieds dans la même barque, on peut avoir une meilleure visibilité, s'entraîner davantage et tout simplement être plus professionnel et proposer quelque chose de meilleur. Évitez de passer pour la fête à neuneux, quoi. Parce que oui, il y a un côté folklorique et faut arrêter aussi de dire oui, le catch c'est vrai, non, faut arrêter ça. On sait que le catch c'est un divertissement sportif et je le rappelle, on le sait, le Père Noël n'existe pas, bah c'est pareil pour le catch, on sait que c'est du spectacle.
Il y en a, ils regardent tout ce qui est WWE, tout ce qui est catch américain, mais ils savent pas que dans leur propre pays, il y a encore du catch qui se passe, Donc moi je pense que ça peut revenir à la mode, il faut juste que les gens voient qu'il y a du catch en France et qu'il y a du bon catch en France.
Est-ce que c'est pas un peu démodé quand même cette idée du bien et du mal ?
Je dirais pas que c'est démodé. Dans le catch on raconte plein d'histoires, donc il y a cette histoire de bien et mal, mais il y a plein d'autres histoires qui sont racontées dans nos matchs.
Par exemple ?
La combativité. Faut se battre pour arriver où on en est et faut se battre pour réussir à gagner.
Donc finalement, c'est assez en phase avec la société qu'on nous réserve aujourd'hui.
Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est un peu comme la vie, il faut se battre pour réussir. Et justement, je pense que c'est ça aussi qui fait plaisir aux fans, c'est que d'un côté, ils peuvent s'identifier à nous avec leur vie, justement.
Est-ce que ce serait pas mieux une vie où, je sais pas, où il faudrait pas forcément se battre pour réussir?
Ah bah, ça c'est ce qu'on rêve tous, mais malheureusement, même pour... tout ce qui est emploi, il faut se battre. Pour tout ce qui est réussir dans la vie, tout le temps, il faut se battre. Ça fait partie de la vie. Et ça fait partie du catch.
J'ai un mot. Merci à tous. Et ça fait que commencer le titre, je vais le garder longtemps, je vous l'assure.
Bravo à l'Aigle Blanc, champion APC, et comme il le disait, tout est dans le catch, y compris l'esprit de conquête cher à notre nouveau président français. Oui, qu'il entende, ce président, la complainte des rois du ring, les bons et les mauvais, et qu'il nous sauve d'une totale et définitive américanisation du catch français. Enfin, ça c'est mon souhait. En tout cas, si vous voulez assister à un gala où vous vous entraînez pour défier les hommes les plus forts du moment, vous pouvez aller à Nanterre, au Studio Génie, ou bien contacter l'APC, l'association des professionnels du catch. On vous a mis tous les liens sur la page Si loin, si proche du site RFI.fr. Vous pouvez évidemment y réécouter l'émission. Voilà. Merci en tout cas à Raphaël Kraft pour ce reportage. Si loin, si proche, c'est fini pour aujourd'hui. Et avec Laura Larry, on vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, on vous souhaite un très bon week-end sur RFI. Salut.